Monsieur Pierre Mirel, vous êtes directeur pour les Balkans occidentaux de la DG Élargissement. D'abord à Zagreb fin 2000, puis à Thessalonique en 2003, l'UE a insisté sur son objectif d'intégration des Balkans occidentaux et n'a eu de cesse depuis de le répéter. Pourtant, 10 ans plus tard, aucun de ces pays n'a intégré l'Union européenne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ?
Mon Dieu, combien de temps avant nous ? C'est une longue histoire. Hein. C'est une longue histoire qui, en fait, a à voir beaucoup, je crois, avec le fait qu'il y a eu des guerres. On n'est pas simplement avec des pays qui ont demandé à adhérer à l'Union européenne, mais des pays qui, il y a 15 ans, étaient en guerre. Il y a eu plus de 100 000 morts, 2 millions de réfugiés. Et donc, il y a toute une situation à dépasser qui n'est pas facile d'un point de vue de relations entre eux, de relations intercommunautés pour certains d'entre eux. Et c'est seulement, à mon sens, depuis 2010, depuis l'année dernière, où on voit de véritables avancées qui tiennent au courage, sans doute, de personnalités politiques comme le président de la Serbie, M. Tadic, le président de la Croatie, le nouveau président Josipovic, qui a eu le courage de se rencontrer dans la ville martyre, on peut dire, de Vukovar, et de dire « mais le moment est venu de tourner la page », ou le président Tadic à Srebrenica. Et donc, je pense que depuis l'année dernière, et avec un certain nombre de décisions du Conseil européen concernant les candidatures à l'adhésion, on est en train de franchir une véritable étape, de commencer à tourner la page pour vraiment entrer dans le processus de préparation à l'adhésion.
Ce n'est pas uniquement des raisons techniques qui sont à l'origine donc de ce retard.
Tout à fait. Adhérer à l'Union européenne, c'est manifestement satisfaire un certain nombre de règles techniques, de conditions, de critères, mais c'est d'abord un grand projet politique. Et ce projet politique ne peut réussir que si un certain nombre de valeurs sont partagées, non seulement par des beaux discours, mais partagées dans la pratique, dans les faits. Et là, effectivement, le poids de la guerre, l'héritage de la guerre, il y a encore des milliers de réfugiés dans des camps, il y a des personnes disparues, tout ça pèse très très lourd. Et c'est seulement depuis un an ou deux, où on commence à voir quelque chose de nouveau qui apparaît.
Alors, quelles sont les réformes prioritaires ? Parce que je suppose qu'il y a aussi un aspect technique. Quelles sont les réformes prioritaires que demande l'Union européenne aux États balkaniques avant de leur offrir, sinon l'intégration, au moins l'acceptation du statut de candidat ?
Mais les réformes importantes, c'est que tout un ensemble de législations, de décisions soient prises et soient mises en œuvre pour établir un État de droit, pour que la règle de droit soit respectée. Et parmi ces... La règle de droit, c'est un vaste, vaste domaine, mais en particulier un pouvoir judiciaire qui soit professionnel, indépendant, non soumis au pouvoir politique, une lutte plus efficace qu'on ne l'a vu jusqu'à maintenant contre la corruption et le crime organisé, qui malheureusement est assez présent dans la région. Ça sont les réformes les plus importantes. Et puis évidemment, une protection sérieuse des minorités, reconnaissance de leurs droits.
Êtes-vous optimiste quant à l'intégration rapide des Balkans occidentaux dans l'Union européenne ?
Rapide, il faut s'entendre sur le terme. En tout cas, la Croatie est bien avancée dans ses négociations d'adhésion. Je ne m'avancerai pas à dire une date, mais c'est certainement dans une période rapprochée où les négociations d'adhésion pourront être conclues. Ce sera un exemple positif et un effet d'entraînement, certainement. Ça va avoir un effet d'entraînement sur les autres. Et les autres qui sont entrés dans ce que personnellement j'appelle le cercle vertueux de l'élargissement. C'est-à-dire, on dépose sa candidature, on a un avis de la Commission qui dit oui ou qui dit non, mais qui liste les priorités à accomplir pour progresser davantage. On est dans cette situation avec l'Albanie, le Monténégro et bientôt la Serbie. Donc il y a un processus d'entraînement et des avancées qui, malgré les difficultés, je crois, est importante.
Et quid du Kosovo et de la Bosnie-Herzégovine ?
Alors le Kosovo, là aussi une décision positive à l'automne dernier où le Belgrade et Pristina, donc le Kosovo et la Serbie, ont accepté d'engager un dialogue que l'Union européenne va faciliter. Et là c'est intéressant dans la résolution des Nations Unies entre la Serbie et l'Union européenne, dans la perspective de leur adhésion à l'Union européenne. C'est vraiment la perspective de devenir un jour membre de l'Union européenne qui finalement les a convaincus de dire « mais réglons de façon pacifique, par le dialogue, nos différends ». Ça, c'est pour le Kosovo. Pour la Bosnie-Herzégovine, on attend la formation maintenant un nouveau gouvernement après les élections d'octobre. Ça prend un peu de temps, mais après tout, la Belgique prend encore plus de temps que la Bosnie. Et notre espoir est que les partis qui vont former la coalition pour un nouveau gouvernement en Bosnie vont avoir comme objectif prioritaire un programme de travail qui leur permettra d'avancer sur la voie de l'Union européenne.
Est-ce que cette vague de demandes d'asile qui a eu lieu au début, milieu d'année dernière, d'année 2010, est-ce que ça n'a pas ralenti le processus d'intégration des Balkans occidentaux ? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les pays, les dirigeants, au-delà de la simple opinion publique, sont plus réticents à accepter l'avancée du processus d'intégration pour les Balkans occidentaux ?
Ralenti, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait certainement prendre conscience aux États membres les plus concernés par ce phénomène de la nécessité de mettre en œuvre les réformes dont je parlais. Et c'est ça, c'est important, un véritable développement économique qui permette une intégration de ces communautés qui sinon vont prendre la route de l'exil.
Aujourd'hui, nous assistons à une conférence sur l'avenir européen des Balkans occidentaux organisée par l'Agence française du Conseil des communes et régions d'Europe. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs locaux, les autorités locales ont un rôle majeur à jouer dans le processus d'intégration de l'Europe du Sud-Est ?
Elles ont un rôle extrêmement important. Pour moi, il y a deux rôles à jouer. Il y a le rôle classique. Pourquoi ? Parce qu'une municipalité est la première en ligne de front, si on peut dire, pour mettre en œuvre les directives européennes sur le traitement des eaux, le traitement des déchets, les transports, etc. Tout l'acquis communautaire dont on parle, les municipalités doivent le mettre en œuvre. Ce n'est pas seulement gouvernement-parlement, bien sûr. Mais je trouve que les municipalités, les autorités locales, aujourd'hui, au stade de relation où nous sommes entre ces pays et l'Union européenne, ont un autre rôle à jouer, un rôle beaucoup plus fondamental. Comment pourrait-on le schématiser par un mot, la réconciliation, à la fois la stabilisation, la réconciliation, mettre en œuvre à leur niveau, dans la municipalité, les beaux principes de l'Union européenne auxquels ces pays veulent adhérer puisqu'ils demandent librement à en devenir membres. Et ça passe par la protection des droits humains, l'intégration des minorités, dont les Roms. Ça passe par la règle de droit, la bonne gouvernance au niveau local et des efforts pour que les multiples communautés interethniques vivent en harmonie.
Simon Rico, Paris, pour Balkanophonie.